Vous écoutez Cinécast, le podcast cinéma présenté par Guillaume Herings et Thibaut Van der Werve. Au programme, l'actualité du grand écran et les nouveaux films à l'affiche cette semaine en Belgique. Bref, votre condensé d'infos ciné à ne pas manquer. C'est parti. Bonjour à tous, vous écoutez Cinécast, saison 2, épisode 33. Salut Thibaut.
Salut Guillaume.
Ça va ?
Ça va. Il tant que ça se termine.
Il tant que ça se termine. On est là pour le dernier épisode de la saison 2 de Cinécast, épisode 33. Dis un peu 33.
Comme
chez le docteur. Voilà, on tenait à vous remercier pour vos 15 000 écoutes sur 33 épisodes. Donc c'était un beau parcours. On est content du parcours. Je ne sais plus combien on a fait d'épisodes l'année passée. Je pense qu'on a fait genre 22. Je ne sais plus,
mais je suis épuisé.
T'es épuisé.
J'ai juste envie de rentrer chez moi, mettre mes savates et terminer mon soir.
C'est comme les footballeurs. Hein. En juin, c'est partout. Ils vont vite signer un contrat puis ils partent en vacances. N'est-ce pas, Eden ? On a fait aussi des épisodes spéciaux. Il y a eu le FIFA Namur, la cérémonie de Magritte, le festival de Cannes, blablabla. Enfin, que des bons moments entre nous.
Mais oui.
Et parfois pas entre nous, parce que pas pu tout faire, mais c'était toujours...
Ouais, monsieur décide de faire des gosses, oui. Ça...
Un, on va se calmer, des...
Ouais. Non. Ouais, mais ça commence par oui, un, oui, et puis oui, on sait oui, où ça oui. termine. Hein.
Par contre, c'est vrai que quand j'ai fait le line-up l'autre jour, on a quand même eu la chance cette année de parler à Mathias Connard, à Benoît Poulvord, à Gilles Lelouch, à Vincent Cassel, à William Legby une deuxième fois, à Jacques Audiard, enfin je veux dire, on a quand même eu du beau monde sur Cinécast, donc ça fait plaisir de voir ce petit line-up qui s'est précipité à nos portes pour parler à nos auditeurs, donc ça c'était quand même...
C'était plutôt sympa.
Un grand hommage.
Enfin, je sais pas.
Quoi ?
En fonction de la qualité de l'audio.
Oui, j'ai pas encore eu l'occasion de vérifier.
Ouais,
l'audio.
Non plus, je t'avoue que j'ai pas trop réécouté.
Peut-être.
Mais j'ai eu l'occasion
de. Ne faisons pas de fausses promesses.
Non, mais j'ai eu l'occasion d'interviewer Richard Kelly, le réalisateur de Donnie Darko, parce que le film ressort en version 4K le 24 juillet en France et en Belgique.
Classe.
Et donc, si l'audio est pas trop mauvais, on le mettra sur Cinécast. Et sinon, vous pourrez lire l'interview en papier.
Hein. Excellent film. Donc, franchement. Allez le voir cet été, parce qu'il
oui,
n'y a
si
pas
vous
de
ne l'avez jamais vu. Surtout que c'est la version Director's Cut qui est très bien. Donc voilà, petite parenthèse.
Alors qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que c'est fini, Cinécast ? Est-ce que Thibaut et moi, on ne peut plus se blairer ? Non.
Cinécast... Dit-il après qu'on se soit frappé dans la gueule pendant une demi-heure ?
J'ai encore des bleus. Ça va, on a une bière, vous nous connaissez. Non, très concrètement, on sera de retour pour une saison 3. Sous quel format, comment, combien de durée, je ne sais pas. Ça, on ne sait pas encore. On va se voir cet été, on va réfléchir. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail, un petit WhatsApp, un petit tweet, j'en sais rien, mais une manière de nous joindre pour passer vos suggestions, pourquoi pas. On va réfléchir à un format, mais en tout cas, la saison 3, on sera là, notamment à Venise, puisqu'on est tous les deux en train de... On a booké l'endroit à Venise,
oui,
on a booké
oui.
les avions, tout est prêt. Donc,
il manque les accréditations.
Il manque, oui, c'est ça.
Accessoirement.
On ne peut pas payer les places à Venise, au pire.
Si,
oh, ben voilà.
Bien sûr.
Donc, au pire...
C'est un festival ouvert au public, donc si vous voulez aller passer une petite semaine à Venise,
à faire
vous allez sur le Lido, vous achetez des petites places de cinéma et vous pouvez aller au festival.
Ah ben voilà, mais donc on sera à Venise.
C'est pas comme ces snobs de Cannes.
Tout à fait, qui sont vraiment démodés. Donc fin août, on sera à la Mostra de Venise avec Constant, avec Élise, des invités réguliers dans le podcast que vous allez avoir l'occasion d'entendre. Là aussi, on fera un format, on ne sait pas encore lequel, mais on viendra vers vous avec des informations plus concrètes. Et
ce sera certainement une quotidienne. On va pas.
C'est l'ambition. C'est de tous les jours vous donner des nouvelles avec une pizza en bouche, quand même, faut le dire, parce que à Venise.
Et un spritz.
Et un Peroni aussi.
Ah ouais.
Petit Peroni, ça s'impose.
Franchement, un petit spritz à 3,50, ça fait plaisir.
3,50, on y va tout de suite.
Oui. Voire 3 euros juste en face du palais.
J'ai déjà hâte. Ouais. Tu vois, j'ai hâte d'aller pour ça à Venise. Donc, la saison 3 sera de retour au Cinécast. Ça sera après Venise qu'on va démarrer vraiment officiellement la saison 3. Et je pense qu'on va s'orienter vers la semaine du 17, hein, parce qu'il y a des sorties, en tout cas programmées pour cette semaine-là, qui sont juste incontournables.
Plutôt sympatoche.
Tolkien, donc le film sur l'histoire de Tolkien, hein, qui est l'auteur du Seigneur des Anneaux, rien que ça. It, chapitre 2. Comme ça.
Petit film d'horreur.
On vous le dit, tout simplement. Ad Astra avec Brad Pitt, film de James Gray.
Ouais.
Donc, pas mal.
Le film que tout le monde attendait depuis des mois. Quoi.
Et le film le plus bourrin de l'année, Rambo Last Blood. Donc, c'est quand même pas mal. On a hâte d'y être. Hein,
J'avais eu l'occasion de voir la bande-annonce lors de l'hommage rendu à Sylvester Stallone à Cannes. Et rien que la bande-annonce sur grand écran, Putain,
ça t'a fait
envoyer du lourd.
Comme on dit. Donc, on a hâte de se retrouver.
Direction.
Pour la saison 3, mais, vous dites, oui, ils se cassent en vacances, qu'est-ce qu'ils vont faire, ils vont se toucher. Non, ce vendredi, maintenant, là, si, le vendredi
21 juin.
Merci Thibaut. 21 juin, on sera à 20h au Kinographe. C'est quoi le Kinographe ? C'est un cinéma éphémère à Bruxelles.
À XL.
XL, c'est presque, c'est Arsenal, ça, non ? C'est à côté
je
de...
Je pense que c'est près d'Arsenal.
Oui, c'est ça, près de chez toi.
Tu peux y aller à pied, ici. Hein.
Oui, c'est ça. Pour une soirée spéciale Cité de la Peur, pour les 25 ans de la projection, on va animer un petit jeu, un petit concours, un truc sympa.
Un petit quiz. En smoking ?
Oui.
Eh oui. Tenue de soirée exigée.
Tenue de soirée oblige, tout à fait.
Parce oui, parce qu'il y a une canne, enfin, à XL. Mais...
Un pseudo-canne. Donc voilà. C'est un cadre bien nul, mais voilà, c'est un concept
avec la murder party aussi après.
Et une murder party après, donc ouais, un beau programme. Allez sur le site du Kinographe ou de Ciné News pour réserver vos places, puisqu'on fait ça en partenariat avec nos amis de Ciné News. Assez parlé un peu de nous et de nos congratulations de cette année. Parlons du programme du dernier épisode de Cinécast saison 2. Alors là, un programme assez particulier, on va le dire quand même. On commence par Made in Black International, ensuite il y a Le Dain, film de Quentin Dupieux avec Jean Dujardin, on a eu l'occasion d'en parler un petit peu quand il est passé à Cannes. Child's Play, c'est un remake, j'ai l'impression que c'est une...
Je sais, honnêtement...
Comment le classifier?
Je sais pas.
C'est compliqué. Hein.
Je sais pas, et je t'avoue que je m'en fous un peu.
En gros, c'est des poupées qui... Hein, qui
bah, c'est Chucky.
Qui sévissent, exactement. Ils auraient pu l'appeler Chucky, ça aurait été plus facile. Et puis...
Ouais, il s'appelle toujours Chucky. Hein.
Oui, mais le titre.
Ah, le titre. Bah, c'est le titre original, en fait.
Ouais, je
sais. Le truc, le problème... Enfin, on en reparle après.
Et puis, éventuellement, si on a le temps, mais on aura sans doute le temps, Red Joan, un film avec Judi Dench, qui est toujours là, qui ne cesse de travailler et de nous offrir des prestations étonnantes, dans tous les cas. Ce sera l'occasion d'en parler avec Thibaut en fin d'émission.
Et je dirais un mot rapide sur Untouchable, un documentaire consacré à Harvey Weinstein. Voilà.
Oui. Yeah.
Oui. Promets du lourd.
Et tu termines la saison avec quelque chose de très léger, c'est sympathique.
Ouais, bah...
Commençons par le box-office, comme d'habitude, en parlant du box-office français. Cinquième place en France, c'est Roxane avec 140 000 entrées. C'est un nouveau film dans le top 5, donc... une entrée discrète, on va dire, sur le cinéma français.
Je ne sais même pas ce que c'est.
Moi non plus. Roxanne, c'est pas ça. Quatrième film, c'est Aladdin de Guy Ritchie, qui est toujours là. 220 000 entrées pour 1 800 000 entrées. Donc l'effet Will Smith marche en France, visiblement. Pas spécialement partout dans le monde, mais en tout cas en France, ça marche. Parasite est le troisième film pour 230 000 entrées. Et ça fait plus de 600 000 entrées au total. C'est la Palme d'Or.
Je pense même qu'il a... Il a dépassé ou il quasiment a dépassé les 700 000. Donc,
Donc les chiffres sont peut-être pas à jour, mais en tout cas, c'est clair que...
C'est quasiment le meilleur score de Bong Joon-ho en France. Hein.
Bah ouais, belle Palme d'Or, belle performance du coup pour Parasite. Deuxième, c'est X-Men Dark Phoenix, 270 000 entrées pour un total en dessous d'un million d'entrées.
Pour la deuxième semaine.
Oui, alors en général, ce genre de film, ça aurait été un peu au-dessus, n'est-ce pas ? Donc c'est pas trop ça. Mais bon, le premier ne peut pas non plus targuer de meilleurs résultats parce que c'est 350 000 entrées pour Men in Black International. Pour un film d'une telle envergure, pour une première semaine, c'est vraiment en deçà.
C'est un beau flop aussi.
Des prédictions. Donc, j'ai envie de dire, on va en parler tout de suite alors de Men in Black International. Qu'est-ce qui se passe ?
On va même reparler de ces deux films, si je puis dire, après.
Oui, exactement.
Men in Black et Dark Phoenix.
Oui, tout à fait. Mais tu fais des... Qu'est-ce qui se passe ? Fin de saison, tu commences à faire des petites annonces comme ça dans le podcast, c'est pas mal ? Oui,
bien sûr.
Donc, Men in Black International, est-ce qu'il y a Will Smith ?
Non.
On peut commencer comme ça. Est-ce qu'il y a Tommy Lee Jones ?
Non.
Non ?
Il n'y a pas Edgar non plus.
Y a...
Tu te souviens de Edgar dans le premier ?
Oui.
Alors, moi, je me souviens très bien du premier.
Il y avait la vache.
J'ai pas beaucoup de souvenirs du 2. Et alors, le 3, je l'ai pas vu, je pense.
Le 2, c'est là où il y a le chien ?
Non, je crois que c'est dans le 1, le chien. Mais je crois que le chien est peut-être dans les deux premiers, non ? Il est pas dans
je
les
crois
deux
que le 2, c'est le truc du chien. Le 2, c'est le chien, c'est vraiment le truc du 2. Quoi. Ce que
moi, le chien, je parle du pug, du petit chien qui parle.
C'est lui qui parle.
Ouais.
Et qui dit des vilaines choses.
Ouais. On le voit, il fait un petit caméo ici.
Forcément, c'est l'animation. Il ne faut pas payer pour lui.
Non.
Donc, Will Smith n'est pas là. Tommy Lee Jones n'est pas là. Mais on continue, Men in Black, X années après le dernier épisode de la. C'était quoi ? Ils avaient fait un 3, non ? Ils avaient osé.
Oui, ils avaient osé faire un 3, mais...
Décidément, Hollywood...
Je ne l'ai pas vu, je ne sais pas ce que ça vaut. Alors, je ne pense pas que ce soit terrible, en plus, mais...
Non, clairement pas. C'est réalisé par F. Gary Gray, avec Tessa Thompson et Chris Hemsworth, et Liam Neeson dans les trois rôles principaux du film. très clairement une volonté de changement. Hein. Nouveau casting, Tessa Thompson dans le rôle principal. C'est assez surprenant. C'est pas une fille qui est, on va dire, dans le top 5 des actrices les plus bankable aux États-Unis pour porter un film d'une telle envergure. Est-ce que déjà c'est un choix payant? Est-ce que Tessa Thompson arrive à porter Men in Black? Ou bien c'est peut-être une question un peu trop tôt pour.
Ouais, tu dirais que tu commences par ça.
Moi je commence à te connaître. Tu fais ton petit regard en mode, mais qu'est-ce que tu poses cette question?
Tu veux pas que je te donne la note tout de suite?
Non, non, c'est vrai, t'as raison. Parle-moi un peu du film. Alors de quoi parle ce Men in Black International?
Déjà, c'est F. Gary Gray qui réalise le film. Donc le gars depuis NWA, Straight Outta Compton. Tu vois?
Oui.
Il a fait Fast and Furious 8. Pas mémorable, mémorable. Et puis là, maintenant, Men in Black. Donc autant dire que le mec, ça y est, il est abonné
au blockbuster. Sur la pente ascendante.
Bah, ouais. Bon, il a fait Braquage à l'italienne quand même aussi. Grand souvenir.
Ah ouais, j'avais le DVD.
Avec
des mini et tout.
C'est Mini Cooper qui
fait.
Ah, mais oui, c'était bien.
Un beau placement pour lui, mais il y a rien à faire.
C'était bien. Mais du coup, Men in Black International.
Déjà, le titre me fait peur. Hein,
c'est à peu près comme pour Chucky, je sais pas trop si c'est. Enfin, non, c'est pas. C'est une espèce de suite, spin-off, tu sais pas trop. C'est l'univers qui continue sans les deux Gugus des trois premiers films. Donc sans Will Smith et Tommy Lee Jones.
Jusque-là, c'est pas grave.
Non, on pardonne. Alors, on a Emma Thompson qui dirige. Je sais même pas c'est quoi le. Enfin, si, c'est les Men in Black.
MIB.
Les MIB, qui est, comme son nom l'indique, international, c'est-à-dire qu'il y en a partout.
Ok, voilà. C'est devenu le. Je sais pas moi, Mission Impossible.
Mais ça l'a peut-être toujours été. En fait, c'est juste que dans les trois premiers, ils sont concentrés sur les.
United States of America.
Exact, les bitch. Et donc, en fait, on se rend compte que assez vite que c'est un gros truc quand même. Mais avant ça, avant de rencontrer vraiment les Men in Black, on découvre d'abord une petite fille quand elle était enfant. Un soir, elle a vu une drôle de bestiole dans sa chambre.
C'est Space Jam ou quoi le début
ça a l'air un peu. Et il y a des hommes en noir qui ont débarqué chez elle pendant la nuit. Ses parents sortent. Elle était dans sa chambre en haut, donc tu imagines dans la maison, en train de se cacher derrière le rideau. Et puis les parents, ils ont été oubliettes, hein, tu sais, comme dans Harry Potter, mais
le poteau busy.
avec le bic. J'ai dû oublier le nom du
mais
truc.
Mais pas elle du coup.
Mais pas elle.
Elle a tout vu.
Elle a tout vu. Elle se souvient de tout. Et donc 20 et quelques années plus tard. Bah, son rêve, c'est de rejoindre cette institution dont elle ne sait pas grand-chose, en fait. Mais elle sait que ça existe, elle sait qu'il y a des espèces de monstres.
Elle trouvait qu'ils étaient classe en costard, quoi. C'est un peu ça.
C'est ça. C'est un peu ça.
Ok, d'accord.
Et donc, elle va chercher à rejoindre les Men in Black. Voilà. Ça, c'est l'histoire...
Here comes the Men in Black. Il y a la chanson pas dans le film?
Non.
Ah, c'est dommage.
Enfin, je pense pas, mais il me semble pas que dans le générique de fin, je pense pas qu'il était dedans.
Ok.
Et donc voilà, on se rend, une fois qu'elle rejoint les Men in Black, tu te rends compte que c'est assez international. Il y a Emma Thompson qui dirige le truc général.
Oui.
Je sais plus c'est quoi son truc. M, c'est Tessa, justement.
Oui, mais M, c'est genre à la James Bond.
Oui, j'ai compris ce que tu voulais dire.
Judi Dench, parce que c'est dans le
Judi Dench dans la James Bond, si tu veux. Mais du coup, le nom de Tessa Thompson, ici, c'est M. Et celui de Chris Hemsworth, qui est son partenaire, c'est H.
Laisse-moi deviner, Chris Hemsworth, c'est son... J'ai pas vu la bande-annonce, hein. Chris Hemsworth, c'est le partenaire qui sait tout faire, qui est le mec irréprochable, mais qui, du coup, est chiant pour une femme. Et donc, du coup, il y a l'espèce de petit banter entre deux, en mode... Non.
Bah, disons qu'on est plus en 2019, Woman Power.
Exactement, donc en gros, arrête de vouloir tout faire, je sais pas quoi.
C'est un peu ça.
Oui, okay.
Sauf que il périclite un petit peu, H. Ce n'est plus la gloire d'antan.
Attends, j'ai pas mon dictionnaire. Est-ce qu'il est péricultrique péricultrique
Alors, périnée, en fait, bon, on va avancer quand même dans cette histoire.
C'est le dernier de la saison.
Il y a Liam Neeson qui dirige la branche. Londonienne, anglaise, pardon, des Men in Black.
Forcément.
La fille, il y a des problèmes à Londres, elle est envoyée là-bas. Bref, elle va faire équipe avec Chris Hemsworth. Et ils vont résoudre plein d'énigmes ensemble. Enfin, voilà. C'est les Men in Black. À l'international.
Plein d'énigmes. Donc, c'est quoi? C'est. Il y a un petit
non,
côté.
Mais, t'as compris, quoi.
Comment s'appelait ce film d'aventurier avec Nicolas Cage encore?
Benjamin Gates.
Benjamin Gates, c'est un petit côté Benjamin Gates.
National Treasure.
Ouais, c'était cool ça.
Ouais, non, mais non, c'est pas ça, mais voilà, ils vont faire équipe. Hein.
Il faut équipe, un duo de choc.
Il y aura une menace sur l'univers.
La question de journaliste à deux balles. Ils vont faire équipe, un duo de choc.
Ouh, on dirait un peu une question Paris Match. Hein.
C'est ça, oui, exactement. Ouais. Est-ce que du coup ça fonctionne, pour le dire différemment?
Bah alors, Chris Hemsworth, il joue un peu. Bon, c'est un peu différent dans le caractère, mais. Il fait le Chris Hemsworth du remake Ghostbusters, là, tu vois. Le kéké blond bien gaulé.
Merde.
Qui en touche quand même pas beaucoup.
Ah si, il en touche, mais d'une autre manière. Excuse-moi, c'est pas...
Ouais.
Oui.
Donc, il est très... comment dire, bah, y a de l'humour. Il joue avec sa personne, en fait. Donc, t'adhères pas, voilà.
Ouais.
Et Tessa Thompson, évidemment, c'est celle qui veut faire ses preuves, qui est surdouée... etc. Donc oui, c'est un bon duo parce que forcément les personnages sont aux antipodes les uns des autres et donc a fortiori complémentaires.
Est-ce que du coup, bon, j'ai pas l'impression que c'est si négatif que ça en tout cas pour l'instant, est-ce que Men in Black International est un film qui voilà qui se justifie ou au contraire tu te dis très vite bon qu'est-ce qu'on montre là, ça ne sert à rien, je vois pas l'intérêt.
Très franchement, si t'as déjà vu un peu des films de ce genre, et quand je dis de ce genre, je parle pas de films avec des extraterrestres, etc. Je parle de films où...
mainstream.
Il y a un objectif à atteindre, un méchant, ceci, cela. Tu grilles à peu près tout ce qui se passe assez rapidement.
Oui.
J'avais compris qui était le méchant du film.
C'est un j'aime lire
assez vite.
C'est un j'aime lire sur grand écran. Quoi.
C'est un peu ça. Et donc bon, à partir du moment où tu sais comment ça va se passer, comment ça se termine, tu vois à peu près venir les blagues, etc. T'en as un peu rien à foutre, quoi. C'est toujours pas hyper réussi visuellement. Je suis toujours pas fan des effets visuels numériques.
Numériques, n'est-ce pas? Mais ils ont pas tous le budget de faire un Christopher Nolan. Pour une Black International, ce serait quelque chose, ça, quand même.
Exactement. Donc bon, à partir de ce moment-là, c'est toujours un peu compliqué. Et puis, en fait, t'as l'impression que t'as déjà vu ce genre de film, quoi. Voilà.
Il y a un MacGuffin, il y a un truc à aller chercher quelque part?
Il y a un MacGuffin, évidemment.
MacGuffin, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le fameux objet.
La quête.
La quête principale du film, que ce soit des pierres, que ce soit quoi que ce soit, il y a toujours un truc comme ça dans un film.
Ouais. Comme le Faucon Maltais, qui est considéré comme le premier MacGuffin.
C'était l'Instant Culture, merci, vous voilà. Écoutez Arte Radio. Voilà. Bon, du coup, Men in Black. Ouais, c'est un peu ça que j'ai envie de dire, c'est pas fou, ça se regarde, il y a une alchimie, on peut le dire, un peu lourdingue.
Je parlerai même pas d'alchimie.
Même pas, ok. Donc c'est vraiment le pur produit qui sert pas à grand chose, quoi.
C'est un pur produit. Alors il y a un petit côté pas inintéressant dans le sens où tu découvres un peu... les Men in Black en grand, c'est-à-dire pas juste la petite unité de New York ou je sais pas, tu vois. Tu découvres qu'il y a autre chose, un fonctionnement assez sympathique.
Le Men in Black verse, oui.
Ouais. Au-delà de ça, le film n'a pas grand intérêt, quoi.
Ça casse pas trop pas.
Après, ce qui est sympa, c'est que bah, tu vois que Chris Hemsworth et Tessa Thompson, ils se connaissent et ils s'entendent bien. Pour rappel, Tessa Thompson jouait dans Thor Ragnarok. Yes. Qu'elle jouait Valkyrie. Mais à part ça, le problème c'est que c'est quand même pas hyper drôle, c'est éculé, c'est du vu, revu. Voilà quoi. Pas mémorable, ça restera pas dans les annales.
Dommage. C'est bien dommage.
Bah, après, c'est pas complètement déplaisant, mais voilà. C'est un énième blockbuster.
Qu'est-ce que tu lui donnes du coup pour résumer ce bilan qui est quand même très mitigé, il faut le dire.
Une étoile parce que Emma Thompson, d'ailleurs il y a deux Thompson du coup dans le film.
Là, oui.
Emma Thompson avec ses cheveux blancs, ça a de la gueule quoi.
Ça a de la gueule. Elle méchante.
Elle a un très beau blanc. Elle a vraiment un très beau blanc. Et voilà.
Mais écoute, c'était une étoile pour Emma Thompson. Merci voilà, beaucoup.
Une étoile pour Emma Thompson.
Par contre, j'aimerais revenir sur ce sujet quand même. C'est pas la première fois qu'on voit des idées bien pourrave qui sort d'Hollywood de ramener des trucs comme ça inexistants, des franchises qui se traînent un petit peu. Tu vois, Men in Black, c'est allez les gars, il faut laisser mourir le truc à un moment donné. Il y a Space Jam 2 qui arrive bientôt. Enfin, voilà quoi. On a vécu le truc, c'est fini. C'est un peu comme s'ils faisaient Newport Beach saison 5 maintenant.
Ouais.
Voilà, on a vu le truc, c'est fini. Il faut laisser tourner la page. Alors, je sais qu'il y a un potentiel business de revenir avec la saga. Mais voilà, je pense que le public a envie d'autre chose. Et le box-office français le prouve bien. Il y a aussi une grosse tendance qu'on a à Hollywood et pas mal d'articles qui sortent, notamment dans la presse américaine, sur les fameux reshoots, cette tendance qu'il y a de dire le film n'est pas bon, on refait, on met 10 millions dedans pour rajouter une scène.
Ouais.
Je pense à Star Wars, hein,
où
beaucoup de changements.
Il y a différents types de reshoots. La plupart pour les gros blockbusters, style Star Wars, ils sont prévus à l'avance dans le calendrier. Il y a le tournage principal, ils font déjà un peu de post-prod, etc. Et puis, ils refont 3-4 semaines de tournage plus tard.
Pour découper, quoi.
Pour faire des chipotages, des ajustements si nécessaire, etc. Aussi, ouais. Donc ça, les reshoots, c'est pas un problème dans l'absolu. Mais il y a les autres types de reshoots, ceux qu'il faut faire quand le contenu principal ne suffit pas ou quand la production a décidé de changer de direction en cours de route. Ce qui arrive malheureusement trop souvent.
Mais de plus en plus souvent, j'ai l'impression, et c'est peut-être ça aussi le débat, c'est très concrètement, les grosses boîtes, les gros studios qui font des films qui coûtent 200-300 millions de dollars, forcément, il y a toute une équipe derrière, il y a tout un investissement financier, un groupe marketing, tout ce que tu veux. Et donc eux, forcément, ils ne voient pas le film comme étant le projet d'une personne. Parce que, rappelons-le, un film, c'est une vision, hein, à la base, c'est vouloir mettre quelque chose sur l'écran et avoir quelqu'un qui veut raconter une histoire à sa manière. C'est clairement ça, faire un film. On ne peut plus avoir sa manière quand on fait partie d'une major comme ça et qu'on fait Men in Black International, par exemple, ou d'autres. Hein. On avait l'exemple de James Bond auquel on va revenir après. Et donc, du coup, on est obligé de rentrer dans un travail de groupe. Or, un film de base est rarement un travail de groupe. Ça peut être un duo éventuellement, mais c'est rare que il y ait 100 personnes qui vont décider des grandes lignes du film.
Ouais.
Je veux dire, le chef opérateur va décider d'aspects visuels, etc. Mais ce n'est pas lui qui va dire « Ok, pour cette histoire-là, je pense que l'acteur devrait dire ça. » Non, ce n'est pas son rôle. Par contre, dans les grosses boîtes comme ça, ils font tous les jours, ils regardent les rushs. Et s'ils ne comprennent pas pourquoi ils ont fait ce rush-là aujourd'hui, ils vont dire « Il faut recommencer. » Alors que ce n'est pas eux les réalisateurs, c'est des gens en costard qui sont dans des bureaux. Donc, il y a ce côté un peu, Kathleen Kennedy est pour ça un bon exemple, hein, qui promet une trilogie, ouais. Ryan Johnson et on n'est plus là, ou on met des réalisateurs aux commandes et puis on les enlève en plein milieu du projet. Enfin, c'est pas très, c'est un problème de management là derrière, je trouve, au-delà de tout ça. C'est pas uniquement un problème des réalisateurs qui foirent ou quoi, hein, c'est...
Non, mais c'est... Il y a plusieurs raisons à tout ça. Si le script est bon, pas bon. En même temps, un jour, tu peux aimer un script et puis deux semaines plus tard, changer d'avis parce qu'il y a telle chose qui ne va pas et telle chose qui ne va pas. Et avoir tel personnage, ça impliquerait avoir tel acteur. Et il y a plein de contraintes, en fait. Donc, in fine, les décisionnaires sont toujours les mêmes. Ce sont les producteurs exécutifs. Donc,
bien sûr.
Donc, il y a beaucoup de films qui ont des soucis comme ça. Men in Black a eu des gros soucis à cause du scénario, qui a beaucoup changé. Et apparemment, les premières versions étaient bien. Et c'est pour ça que je pense que les gens ont accepté de faire le film. Et puis voilà, ça s'est un peu cassé la gueule en cours de route. Et voilà, le résultat est
mitigé. Une étoile.
Ouais, c'est ça, une étoile. Ouais.
Il y a d'autres nouvelles. Hein. Il y a eu Dark Phoenix récemment, où il y a eu... aussi des histoires là-dessus. C'était quoi encore l'histoire que tu m'as raconté par rapport à Dark Phoenix?
C'est aussi un peu la même chose. La production s'était rendu compte, enfin, ils s'étaient bien rendu compte qu'ils s'étaient plantés sur Apocalypse. Ils ont essayé de corriger le tir et puis, à nouveau, non. Ils refont à peu près les mêmes erreurs, même si moi je trouve que le film est meilleur. Mais du coup, c'est aussi des productions un peu... un peu compliqué parce que le film, ouais. Il était censé sortir il y a des mois et des mois, et puis il a sorti repoussé, il est repoussé. Et quand c'est toujours des choses comme ça, quand tu vois qu'un film change beaucoup de dates, qu'il y a des problèmes de calendrier, c'est jamais bon signe, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de confiance au niveau de l'œuvre elle-même. Donc c'est toutes des productions un peu compliquées, quoi. Et ça se voit dans le résultat, malheureusement, j'ai envie de dire. Et là, le dernier en date, bah, c'est James Bond, où on apprend aujourd'hui que c'est limite la rébellion sur le plateau, parce que Fukunaga, il préfère jouer aux jeux vidéo que
FIFA tourner.
Le gars, il joue pendant 3 heures, du coup, il a 3 heures de retard sur le tournage. Et puis, il demande des heures sup aux techniciens, quoi. Et alors, si j'ai bien compris, bon, alors, première chose, l'info vient du Sun, hein, en Angleterre. Donc, le Sun, c'est 7 sur 7.be.
Oui, c'est lui qui avait annoncé l'arrivée de Messi à Arsenal, donc il faut se calmer.
Ah ouais, oui. Non, mais le Sun, c'est un tabloïd, donc information toujours à prendre avec des grosses, grosses pincettes. Hein, mais apparemment, il y a pas mal de soucis sur le James Bond. Bon, déjà, Daniel Craig s'était blessé pendant le tournage au début, donc tout est décalé, tout est repoussé.
Ça peut arriver en soi.
Ouais, mais visiblement, c'est compliqué entre Fukunaga et l'équipe, quoi. Donc, il y a eu plusieurs petites choses, et si je comprends bien, cette histoire de demander des heures sup alors que le gars est en retard parce qu'il joue aux jeux vidéo, c'est un peu la goutte qui fait déborder le vase, quoi.
T'imagines, t'es réalisateur, t'as l'occasion de réaliser un James Bond, c'est quand même un kiff, tu vois, faut le dire. Et tu joues à la PlayStation le jour du tournage, enfin, il faut être un peu sérieux quand même. Oh là là, oui, bon, soit. Mais bon, ça, de nouveau, c'est des paroles, on sait pas très bien ce qui s'est passé, mais de manière générale, voilà, de toute manière, c'est clair qu'il y a des problèmes de gestion à Hollywood sur pas mal de projets, parce qu'il y a aussi une volonté de précipiter les choses. Quand je vois qu'il y a des films qui ont des deadlines alors qu'ils ont même pas encore de scénario, je trouve ça parfois abusé. Je trouve qu'il faut d'abord quand même partir du principe de base d'avoir l'histoire avant de faire le film.
Mais oui, mais c'est pas toujours comme ça que ça fonctionne, malheureusement.
Ah non, mais les films qu'on voit aujourd'hui au grand écran sont des films qui sont prévus depuis 2015, hein, qu'on soit bien d'accord. Donc,
pour beaucoup, oui.
Oui, pour beaucoup. Peut-être pas le prochain.
Ceux des grandes franchises.
Peut-être pas le prochain dont on va parler, où le synopsis tient sur un post-it. Georges, 44 ans, et son blouson 100% daim ont un projet. Voilà le synopsis de Quentin Dupieux pour le film Le Daim, présenté quinzaine de réalisateurs, c'est ça, hein, à Cannes.
C'était le film d'ouverture de la quinzaine des réalisateurs.
Exactement. Film, du coup, cannois, avec Jean Dujardin et Adèle Hanel. Quentin Dupieux, quoi, j'ai envie de dire. Un homme qui aime bien jouer avec le côté absurde, mais qui, de plus en plus, ces temps-ci, met des éléments de comédie peut-être un peu plus faciles et faciles d'accès. Quand tu vois ses premiers films qui étaient quand même difficiles à avaler.
Rubber, ouais. Bah, Rubber, il y a quand même des gros éléments de comédie aussi, je trouve. Je l'ai revu il n'y a pas longtemps. Il y a une semaine, quelque chose comme ça. Je trouve qu'il y a quand même des gros éléments de comédie, mais c'est vrai que c'est peut-être moins frontal. C'est plus arty,
quand même, qu'on se le dise. Hein.
Ouais.
C'est... Au poste, c'était quand même un peu plus accessible.
Ouais,
c'est sûr.
C'est vrai que
Le Daim peut-être pas, mais
c'était plus une pure comédie.
Ouais.
Le Daim, c'est moins assez bizarre parce que c'est pas vraiment une comédie, en même temps c'est assez drôle aussi, tu vois.
Bah, déjà le pitch est stupide.
Mais je pense pas qu'on puisse dire que c'est vraiment de but en blanc une comédie, tu vois. Donc
Alors c'est quoi?
Parce que c'est drôle. C'est
on pourrait croire que c'est un drame, on pourrait croire aussi que c'est un film de serial killer, parce que c'est un peu ça le setting, on va dire.
Ok, moi je ne comptais pas spécialement parler de cet élément-là.
Ah, dans la bande-annonce, on le montre. Hein, donc,
ouais,
d'accord. Oui, à ce moment-là, c'est assez clair.
Bon, ok. Mais c'est, bon. Je ne regarde pas les bande-annonces.
Je ne te le dirai pas sinon.
Ça m'étonne vraiment qu'il montre ce genre de choses.
Ah oui, quand même. Oui.
Parce que, bon, soit. On va dire que c'est un type qui a plus de vie. Il s'est fait larguer. Il a plus que sa bagnole. Et il va. Il fait des kilomètres et des kilomètres pour acheter une blouse 100% daim. Voilà. Déjà, ça commence bien.
Déjà, le concept est génial.
Alors, il la paye, je sais plus combien. Une fortune. Je pense pas que ça vaille autant, mais il la paye une fortune.
Genre quoi, 3000 euros?
Ouais, une connerie du genre, tu vois.
Le mec a acheté une Range Rover.
Et puis il a plus de pognon, il est dépouillé. Et donc il essaie de survivre dans un bled où il a pris une chambre dans un hôtel.
Dans une région un peu pourrie de France, un peu paumée comme ça, non? Dans la nature.
C'est ça, c'est ça. Je vais dire dans les Alpes ou je sais pas quoi.
Il est bien les grands loin, espaces, hein, tu vois. Ouais, tout à fait.
Ouais. Et il va acheter une caméra aussi. Ou alors il reçoit une caméra du gars à qui il achète le blouson. Je ne sais plus exactement comment il obtient
la caméra, oui.
Comment il obtient la caméra, mais Du coup, il se fait passer pour un réalisateur. Et le truc, c'est qu'il a pas d'argent, donc il doit essayer de faire genre, il bosse sur un film, il voit être payé, machin. Et enfin, il a surtout plus d'argent parce que sa carte est bloquée. À un moment, son ex-femme a fait bloquer le compte commun ou je sais pas quoi. Enfin, bref, il a plus rien. Et il va rencontrer une serveuse dans un bar qui est monteuse et donc il va lui faire croire que lui, il est là en repérage, il fait des trucs pendant que le reste de l'équipe tourne en Russie ou je sais plus quoi.
Enfin, il a un gros projet, quoi.
Ouais, ouais, un gros projet.
Il a un gros mytho,
surtout. Ouais, ouais, ouais. Et son projet, en fait, alors, c'est qu'il parle avec son blouson. Il parle avec son daim. Et le rêve du blouson, c'est d'être le dernier blouson sur Terre. Et ça tombe bien, parce que le rêve de Georges, c'est d'être la dernière personne à porter un blouson sur Terre.
Donc il va...
Bah donc, il commence à tourner son film en filmant des gens... les gens regardent la caméra et disent plus jamais je ne porterai de blouson et tout. Et du coup, ils jettent leur blouson et lui il les récupère et puis il les fout dans son coffre. Et puis eux se rendent compte. En fait, lui, il se barre avec les blousons des gens. Puis les gens ils comprennent pas trop, tu vois. Mais c'est un film, rends-moi mon blouson, tu vois.
Ouais.
Et ben voilà, et c'est des choses comme ça. Et puis il se pourrait qu'à un moment les choses dégénèrent un peu, histoire de rendre le film un peu sympa, quoi.
Sympa, genre ça passe au bif ou sympa en mode c'est léger?
Bon, ça reste léger.
C'est léger.
Ça reste léger.
Jamais, on sait jamais.
Mais voilà, les choses vont un peu dégénérer.
Sympa, ok. Je vois, t'en parles, t'as le sourire aux lèvres, donc c'est un film qui t'a surpris, un film qui t'a fait plaisir, clairement.
Ah, moi je trouve que c'est un très bon Dupieux, mieux qu'Au Poste, par exemple. Pour moi, ça rejoint le top avec Rubber et Réalité. Je trouve que c'est vraiment un excellent cru. Jean Dujardin est génial dans ce rôle de gros beauf,
isolé,
complètement largué dans la vie. Adèle Haenel joue la jeune serveuse qui va l'aider un peu dans sa tâche. Et il forme un duo assez dingue parce que du coup, il arrive à l'embarquer dans son projet en fait.
Ouais.
Et elle n'est pas complètement dupe non plus, donc c'est assez intéressant de voir la relation entre les personnages.
Complètement dupe, tu vois, t'as compris.
Ouais,
c'est pas mal,
c'est
hein.
Fabuleux.
Ça veut dire un vieux titre d'article de presse journalistique. C'est pour ça que je ne suis pas...
Ouais.
Je rédacteur cinéma.
C'est bien, c'est bien.
C'est bien, oui. Bon, mais écoute, le dingue, en tout cas, tu me donnes envie de le voir. Et j'ai très très envie d'aller voir. Je pense que je vais le faire. Je vais trouver le temps d'aller voir le dingue parce que j'ai...
Tu vas aller au cinéma?
Ouais, ça fait longtemps.
Waouh.
Ça fait longtemps, je suis plus seul au cinéma. J'ai vu l'expérience. Popcorn, ça existe?
Tu te souviens du dernier film que t'as vu en salle?
Putain, avec Le Chant du Loup.
Waouh.
Wow.
C'était quoi, mois d'avril? Non, début mai? Je sais plus.
Non, avant.
Avant ça?
Ouais. Donc, Le Dain, film de Quentin Dupieux avec Jean Dujardin. On va pas en dire beaucoup plus parce que c'est un film de Quentin Dupieux, donc ça se découvre, ça se déguste.
Oui, bah ça reste. Bah, rien que le pitch est déjà surréaliste.
Cet homme, c'est l'as du pitch. C'est l'as du pitch.
Tous ces films.
Tous ces films, c'est un pitch, mais vous lisez les pitchs de Quentin Dupieux et c'est impossible de ne pas avoir envie de ne plus que voir de quoi va parler ce film parce que c'est quand même surprenant. Enfin, un film où il y a un pneu qui tue des gens, c'est quand même un concept aussi.
Ouais.
Donc,
franchement, comme je te disais, je l'ai revu là, il y a une semaine ou deux. C'était fabuleux.
Bah, Robert, cette scène d'intro, putain, déjà quoi. Aussi.
Ce film est dingue.
Ce type est dingue. Oui, ben voilà.
D'ailleurs, alors, je sais pas s'il est, il est toujours d'accès, mais je pense que c'est Arte qui avait mis le film en ligne sur YouTube pendant un moment.
Yes.
Donc, c'est comme ça que je l'ai revu. Donc, checker. On a peut-être dépassé la date.
Il y a plusieurs films de Quentin Dupieux. Non, plusieurs films de Quentin Dupieux sont sur YouTube. Hein. Et lui-même a mis des films sur YouTube.
Ah oui, voilà, c'est ça. Donc, n'hésitez pas. Si vous ne connaissez pas le cinéma de Quentin Dupieux, allez-y.
J'ai un peu plus de mal avec mon film qui pour moi est un peu trop...
Je l'ai pas vu celui-là.
Voilà, c'est son premier film, c'est un court-métrage.
Ouais.
Mise en abîme de gens qui font un film. C'est déjà un peu compliqué de faire ça, je trouve.
Ah mais tous ces films sont un peu des mises en abîme. Il y a du Quentin Dupieux dans tous ces films.
Clairement.
Et il le reconnaît... Enfin,
il le reconnaît très
franchement lui-même. C'est ça qui est une des choses qui est super bien à la Quinzaine des réalisateurs à Cannes, c'est qu'après la séance de 8h30, l'équipe...
Bon,
vient et il y a une séance de questions-réponses après la projection
ouais,
du film, donc C'est assez cool de l'entendre parler, de les entendre, parce qu'il y avait Adèle Hanel et Jean Dujardin aussi, parler de ce projet, une fois encore très atypique et une fois encore très, très réussi.
Parlons du brief.
Bah, attends.
Ah, pardon, excuse-moi, c'est vrai, le nombre d'étoiles.
Et à
je
chaque
dis,
fois.
Je dis, oui, c'est vrai. Et on aura fait deux saisons et je n'ai toujours pas ce réflexe de dire combien d'étoiles ?
Trois.
Trois étoiles. Trois étoiles pour le Dain, donc c'est quand même du très très lourd pour Thibaut Vandeboeuf. Vous connaissez son avis qui est parfois tranché, n'est-ce pas ? Parlons du brief maintenant. Le Brussels International Film Festival qui a annoncé son programme, enfin, forcément, parce que ça démarre ce jeudi, le jeudi 20 juin du 20 au 29 pour être plus précis. Avec des films que vous connaissez, hein, il y a toute une sélection belge de films qui sont sortis cette année en Belgique. Donc, vous avez notamment Monquette qui était sorti, je pense, l'année passée. Ouais. Et des films comme ça. Mais il y a aussi forcément une compétition internationale, une compétition plus locale. Un village du brief. Bref, plein de choses.
Des masterclass.
Des masterclass. Michel Azanavicius.
Qu'on devrait avoir en interview normalement.
Écoute,
ce serait bien,
ce serait pas mal. Plein de choses comme ça. Il y a, je sais pas, Yves qui passe aussi à la Directors Week.
Des films qui passent en plein air aussi.
Des films en plein air. Tout un programme au festival. On va pas parcourir chaque section, mais dans les films en plein air, par exemple, je clique dessus. On a Wayne's World, qui est quand même un film assez particulier. La chèvre, bon, on l'a tous vu 10 fois sur TF1, mais voilà. Gravity d'Alfonso Cuarón.
Ouais.
Ça reste toujours une belle occasion de le voir sur grand écran.
Ouais, moi, ça me fait. Allez, petit bémol, mais je trouve qu'ils se sont foirés. Je trouve que c'est un film à voir en salle, oui. Pas en plein air.
Il faut que ça fasse sombre, je suis d'accord, et ouais. Il faut être dans les conditions.
Ouais, et c'est un film qui est très très anxiogène, que j'adore. Hein. Vraiment, là, de cette décennie, c'est un de mes films préférés. Je suis un ultra fan d'Alfonso Cuarón. Et du coup, j'ai très envie de le revoir, mais je crois que je serais prêt à faire l'impasse, parce que vraiment, le voir en plein air, ça me...
Bon. Moi, j'ai vu le film 2 fois, j'ai vu en salle et à la télévision. Et très honnêtement, en salle, j'ai trouvé ça formidable. Et à la télévision, j'ai trouvé ça un peu chiant.
Ah non, mais j'ai déjà revu sur mon ordi. Moi, je le trouve toujours bien, même sur l'ordi.
En fait, c'est vraiment une expérience.
Ah oui.
C'est une expérience de cinéma.
Idéalement, il faut le voir.
Vous savez, les vieux dictons, il faut le voir en salle. Voilà. Ben,
dans
ce cas-ci, c'est le cas.
En Dolby Atmos, c'est où t'as le son vraiment
partout. En Dolby Atmos, ouais.
C'est
ce que j'ai inventé.
C'est dingue, hein.
Oui, c'est dingue.
Devant ce film, quand ils savent plus respirer, je respire plus. Je suis en apnée. Ouais, vraiment.
C'est comme à l'époque, je me rappelle quand j'étais jeune, il y avait des copains qui avaient des home cinéma chez eux et il y avait des baffes dans le salon et on regardait genre Scream ou un truc comme ça et t'entendais genre des bruits de pas derrière toi, tu vois. Oh putain, c'était une belle époque.
Mais sinon, ils ont un chouette programme plein air. Hein.
C'est vrai.
La classe américaine, Wayne's World, La Chèvre et Un jour sans fin, plus Gravity, c'est plutôt cool.
La classe américaine, je le conseille. Hein. Beaucoup de gens ne connaissent pas ce film. C'est un film de Michel Hazanavicius où il détourne.
Qui est invité d'honneur.
Américain, il détourne des films de Warner Bros en faisant des dialogues succulents dessus, donc il y a pas mal de passages, c'est très barré comme film, donc c'est le genre de film, si en plein air c'est sympa parce que parfois il y a des passages un peu moins bons,
ouais.
Et au moins vous pouvez un peu discuter, etc. Mais c'est très sympa, c'est vraiment un film qui...
Il vous saurez enfin qui est l'homme le plus classe du monde.
Exactement.
Qui n'est pas John Wayne, mais qui est...
Je sais plus. Mais que je l'ai pas vu depuis longtemps.
Mais ça ne s'oublie pas.
C'est qui ?
C'est George.
Ah oui, ok.
George Abitbol.
Oh là là.
Bon, allez. En compétition, il y a des chouettes choses, pas mal de films de Cannes quand même, quelques-uns, The Orphanage notamment. C'est It Must Be Heaven d'Elia Souleymane qui fait l'ouverture, qui avait eu une mention spéciale à Cannes. Il y a Zombie Child de Bertrand Bonello qui sera aussi présent. Il y a quelques trucs sympas, franchement. En clôture, Claude Lelouch. Pas dégueulasse, hein ?
Non.
Avec Les plus belles années d'une vie, qui est donc la suite de Un homme et une femme, qui était également projeté à Cannes. Donc ça, c'est un chouette programme. Dans le jury, c'est un jury qui a de la gueule. Le jury international, il y a Jacob Cederkren, qui est l'acteur qu'on avait vu dans The Guilty. Je ne sais pas si tu te souviens de ce film. Oui. C'était un opérateur...
Excellent film.
Oui, tu l'as vu ?
Oui, je l'ai vu. Ah,
voilà.
Ça, je l'ai vu.
Un mec tout seul devant son ordi au téléphone, qui était ouf quand même.
Masterclass pour les apprentis cinéastes, parce que comme quoi, ils ont... j'ai pas l'argent pour faire un super film. Ben là, prends une claque dans ta gueule alors. Parce que si...
Il y a Vincent Macaigne, Nadia Cassi, David Oulofen, qu'on a eu l'occasion d'interviewer.
Exact.
Pour...
Frères ennemis.
Et Esther Garel aussi, la sœur de Louis, qui joue dans Call Me By Your Name, je ne sais pas si tu te souviens.
Tout à fait.
C'est la fille qu'il fréquente.
pêche.
Mais oui. Et au niveau des masterclass, on a cité Michel Hazanavicius, mais c'est pas le seul. Il y a quand même d'autres invités sympathiques. Abel Ferrara, qui vient présenter son dernier film, Tommaso, qui était également à Cannes, je crois que c'était à la quinzaine des réalisateurs, si je ne dis pas de bêtises, mais peut-être que je dis des Indeed. Bêtises. Mais oui. Donc Abel Ferrara, grand nom du cinéma quand même, qu'on ne présente plus normalement, a priori, mais enfin. Bouly Lanner, c'est une carte blanche aussi. Il y a Emily Deken qui aura une masterclass en compagnie des frères Dardenne. Donc, et David Oulofen aussi qui fera une masterclass qui doit être très intéressante parce qu'il est scénariste, il a écrit quelques gros films des français de ces dernières années. Et il a aussi réalisé de Loin des Hommes, un film avec Viggo Mortensen
oui.
et Reda Kateb. Et puis Frères Ennemis avec Mathias Kounertz et Reda Kateb.
Que du beau monde au brief.
Un beau programme.
Pas mal. Hein.
Un beau programme.
C'est quoi? C'est la deuxième édition, je pense. Hein.
C'est la deuxième édition.
Voilà, ça.
Qui est, oui, donc du Festival International du Film de Bruxelles. Enfin, un des festivals internationaux du Film de Bruxelles.
C'est vrai.
Parce qu'on sait que c'est compliqué, cette histoire. Mais pour combien de temps encore, c'est une bonne question. Je pense que des trois, c'est le plus solide.
Oui.
Ça me semble assez évident. Enfin, des trois, il en reste plus que deux. Je pense que c'est le plus crédible en tout cas, même si ça pourrait être mieux. Je pense qu'ils ont beaucoup d'ambition et je pense pas qu'ils arrivent encore à arriver à ces ambitions, mais le potentiel est là en tout cas.
Ils ont les partenaires aussi pour eux. Donc clairement, ils ont des
partenaires institutionnels
non négligeables,
plutôt sympathiques.
Parlons du troisième film cette semaine qui sort au cinéma, c'est Child's Play. Ça vous dit peut-être quelque chose, hein? Sous un autre nom, on pourrait parler de Chucky, une poupée qui est très sympathique sur tout égard. Bon, on va pas vous faire le tour de la question trois fois, hein. C'est bon, clairement
ça va aller vite, hein, de toute façon.
Une poupée qui tue, voilà, soit très très simple. Andy, enfin ouais, c'est Karen, une mère célibataire qui offre à son fils Andy une poupée, ignorant toute sa nature sanguinaire et violente. C'est un slasher qui sort maintenant, c'est assez surprenant, on pourrait s'attendre à une sortie fin septembre, octobre, novembre, tu vois, pour la période. Mais non, juste avant l'été, pourquoi pas, c'est vrai que c'est une belle contre-programmation à côté de Men in Black et Le Dain, avoir un film d'horreur pur et dur. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Thibaut, qui... Décidément, on est sur une terrasse à Saint-Gilles ou quoi, qu'est-ce qui se passe?
Oui, un peu de bruit.
Un peu de bruit. Un film de Lars Klevberg avec... Je crois que c'est Mark Hamill d'ailleurs qui double en anglais, si je ne me trompe pas.
Exactement.
Qu'est-ce que tu en as pensé?
Alors, Chucky, pour rappel, c'est une série de désormais 8 films hein, qui a démarré en 88 avec Child's Play, jeu d'enfant en français. Il y a eu de nombreuses suites. Alors, honnêtement, je n'ai pas vu tous les films. Donc je ne saurais plus te dire si tout est cohérent ou si chaque fois c'est des spin-offs, machin. Mais ici, je ne saurais pas te dire si c'est une suite, si c'est un remake, si c'est un reboot. C'est un film Chucky. Il n'y a pas spécialement de cohérence par rapport aux autres, je pense. À nouveau, je le répète, je ne les ai pas tous vus. Mais en tout cas, ici, il y a une grosse différence par rapport au premier film, au film original. C'est que dans l'original, donc on démarrait par une fusillade entre un flic et un méchant. Méchant qui était joué par Brad Dourif. Brad Dourif qui joue Worm Tongue dans Le Seigneur des Anneaux, dans Les Deux Tours.
Tu vois, c'est... Bah, oui, je vois toujours
très bien. Conseiller de Théoden, tu vois.
Oui, c'est vrai.
Et qui jouait aussi dans Vol au-dessus
d'un... T'as pas encore des détails plus spécifiques?
Non.
C'est lui qui a porté un café aussi à Martin Scorsese sur...
Okay. Non, mais je trouve que Brad Dourif est un acteur très sous-estimé et qu'on ne voit pas assez.
C'est vrai.
Et qui a pourtant eu quelques rôles assez sympathiques. Regarde, Vol au-dessus d'un nid de coucou, Chucky, Le Seigneur des Anneaux, c'est quand même trois films plutôt sympas. Quoi.
Que personne ne connaît, oui, tout à fait.
Bref, et donc ce méchant, à cause de... c'était quoi? Un orage et tout, il s'était fait tuer, mais il s'était réincarné dans une poupée... Chucky, voilà. Ici, ils n'ont pas essayé de trouver de trucs fantastiques, un peu,
ça génial, les films,
un peu tirés par les cheveux.
20e siècle.
C'est juste que c'est un employé de la boîte qui fabrique les poupées. Il rêve, enfin, il est dans la lune. Son patron le vire sur le champ et dit tu termines la poupée et puis tu te casses. Mon coco, hein. Et donc il a juste supprimé tous les protocoles de sécurité et tout sur la carte mère et puis il a terminé la poupée et boum, à la vente.
C'est un peu comme l'employé de McDo qui crache dans le burger avant de le laisser. C'est un peu la même chose.
Exactement.
Exactement.
C'est ça.
Fuck le capitalisme.
Tout à fait. Et donc la poupée va se retrouver dans les magasins.
Dans le marché.
Aux États-Unis, évidemment.
Mais déjà, qui va acheter ces poupées? Honnêtement, moi, je vois la poupée, je ne l'achète pas.
Non, bah écoute, c'est une poupée qui peut tout faire. Elle est connectée à tous les ustensiles de cette boîte.
Oui, ok.
En fait, boîte qui ressemble un peu... Enfin, c'est un peu une critique d'Apple, parce que c'est connecté à la TV, à ceci, à cela, et tu vois. Il y a un petit clin d'œil, un petit tacle.
Sera-t-il le film de la semaine avec des critiques de l'Amérique profonde? Qu'est-ce qui se passe?
Non. Mais donc, voilà.
C'est Google Home dans la poupée.
C'est ça. C'est un peu ça. Et donc, l'attrait est là pour les gens. Et forcément, une dame ramène la poupée défectueuse. Bah oui, elle a les yeux rouges et pas les yeux bleus. Au magasin, qui s'appelle Z Mart, je pense. Oui. C'est subtil. Mais la vendeuse se débrouille pour la ramener chez elle parce que le nouveau modèle sort 2 semaines après, donc ça sert à rien de renvoyer un vieux modèle défectueux à l'usine au Vietnam, quoi. Hein. Donc ça fait plaisir à son fiston, c'est son anniv dans 2 semaines.
Mais oui,
ça tombe bien, hein. Et donc elle ramène la poupée qui est censée s'appeler je ne sais plus comment, mais qui a décidé de s'appeler Chucky à la maison.
Et là, si tu es un parent modèle, tu... tu cours.
Bah, le truc des Chucky, c'est que tu es meilleur ami, mais pour la vie.
Oui.
Et donc, c'est une petite poupée un peu vicieuse qui, avec ses yeux, peut enregistrer, etc. Et donc, si le gamin dit qu'il veut que son beau-père parte, qu'il ne le veut plus dans sa vie, Chucky peut faire ça.
Mon Dieu.
Mais bon, quand tu dis que t'en as marre de ton beau-père et que tu veux plus l'avoir dans ta vie, c'est pas forcément que non. Tu veux le voir se faire trucider par une poupée.
Et quand t'es un gosse, en général, tu dis ça à tout le monde.
Donc voilà. Et donc, tous ceux qui que Andy n'aime pas ou qui n'aiment pas Andy...
Il faut pas contrarier Andy, quoi.
Il faut pas faire ça devant Chucky. Hein,
ah, ça, c'est sûr.
Alors, okay. Honnêtement, j'ai passé un bon moment. J'ai bien kiffé.
Ça aurait pu être de bif.
C'est bien gore.
Ouais.
Ah,
il y
a son lot d'hémoglobine, franchement. Ça faisait plaisir. Alors, c'est un énième slasher.
Ça pourrait être un VOD, quoi.
Ça renouvelle rien du tout.
Plus,
ça pourrait être un VOD. C'est un excellent film à regarder avec des potes, de la pizza et de la bière.
Ouais, c'est ça, ouais.
Parce que franchement, on passe un bon moment. Donc, ouais, plutôt. Alors, j'en attendais rien. Et j'avais très, très peur. Parce que. Quand on reçoit l'invitation pour la projection, il est noté que l'embargo est jusqu'au jour de la sortie à 16h. Donc ça veut dire qu'avant 16h.
Mercredi 16h.
Mercredi 16h, on ne peut pas en parler. Je pense que ce podcast sortira avant 16h. Parce que cet embargo n'a aucun sens.
Ah oui, c'est vrai.
Le jour de la sortie à 16h.
C'est débile, ils peuvent pas en parler, mais on est en train d'en parler.
Mais non, on est en train d'en parler.
D'accord.
Moi, on peut balancer le truc à 10h, je m'en fous. De toute façon, on dit du bien du film, ils vont pas nous faire chier. Donc, non, ça n'a aucun sens, cet embargo.
C'est vrai, et que donc... surtout que je pense pas que les gens vont tous faire la file. Enfin, tu vois ce que je veux dire, il y a Men in Black et tout. Enfin,
mais non.
Charles P, c'est vraiment la contre-programmation.
Ça n'a aucun sens. Et en général, quand tu fais un embargo aussi tard, c'est que c'est pas bon.
Ouais.
C'est aussi simple que ça.
Alors que non.
Alors, c'est pas toujours vrai.
Alors que c'est parfois, c'est mieux que Men in Black.
Un gros film très attendu, style Star Wars, etc.
Oui.
Mais ici, ben, en fait, non, c'est mieux que Men in Black.
Qu'est-ce que vous faites?
Ici, j'ai bien kiffé.
Donc c'est quoi, c'est 2 étoiles, ça?
Ben ouais, c'est un petit 2 étoiles, c'est sympatoche.
Pour Chucky, ça passe crème.
Ouais.
Pour démarrer l'été, un petit film d'horreur où ça sangle bien, ça, c'est sympathique, ouais. Ça fait
plus,
peur.
En plus, c'est une poupée qui est dégueulasse. Hein.
Mais je vais jamais acheter ça, moi. Je comprends pas qui va acheter une poupée pareille.
C'est vraiment hideux.
Bon.
Bah écoute, bon, voilà. Passez un bon moment.
Est-ce que Child's Play fera partie des meilleurs films de l'été? Je ne pense pas.
De l'été, j'irai pas jusque-là. Non.
Mais on entre dans la saison
enfin,
des films de
l'été. J'en ai pas encore vu énormément de l'été, mais.
Non, c'est vrai.
Quelques-uns.
Mais vu que c'est le dernier épisode officiel de Cinécast, hein, on n'est pas contre éventuellement un épisode en chemette spécial. Restez au courant, on ne sait jamais ce qui va se passer. Bah, si on s'ennuie un peu cet été.
Le truc, c'est que ouais, la semaine prochaine est quand même des grosses sorties ciné. on va essayer de faire un petit quelque chose.
Tu te vois mal faire l'impasse. Mais
c'est, ouais. Surtout qu'il y a un de mes films, je pense qu'il serait un de mes films préférés de l'année. Donc voilà, voilà.
Est-ce qu'il y a un T et un S dans le titre?
Non.
Ah, okay.
Mais il y a un B.
Voilà, c'était tout. Comme ça, vous êtes au courant.
Le petit,
du petit coup, casse-tête. Cet été, pas mal de films qui sortent. Forcément, chaque été, il y a beaucoup de films. Même si j'ai l'impression, et on en avait déjà parlé l'année passée, que les gros films sortent plutôt en mai-juin. Et l'été, c'est un peu plus calme. Même si on a toujours des grosses sorties. Hein,
voire au mois d'août plutôt que le mois de juillet.
Exactement. Parmi les films qui sortent cet été, lequel t'excite le plus, Thibaut? Et me dis pas Angel Has Fallen, parce que voilà, c'est...
Alors, clairement, le film que j'attends le plus cet été, niveau blockbuster, etc., c'est Angel Has Fallen, évidemment. Mais oui, bien sûr. Alors, je suis un très très grand fan
de Olympus, 2, hein.
Olympus Has Fallen, ouais. Qui est un gros plaisir coupable. Par contre, London Has Fallen, c'était une grosse purge, même si t'es quand même content un peu, mais oui, Angel Has Fallen, okay, c'est le film que j'attends le plus.
Écoute.
Après, ce sera clairement pas le meilleur. J'attends quand même pas mal Hobbs versus Shaw,
Hobbs
le
spin-off Joe, ouais.
de Fast and Furious. Mais je pense que non, le film de cet été que j'attends le plus, c'est pas un blockbuster du tout, c'est Midsommar d'Ari Aster, le réalisateur de Hereditary, avec l'amour de ma vie, Florence Pugh, dans le rôle principal.
Pas du tout la même chose, là.
Non, bah non. D'accord. Là, pur film de genre. Écoute, qui a l'air de se dérouler dans une espèce de secte. Donc, ça a l'air très sympathique.
Ton choix est sans doute influencé parce que tu as vu le film. Mais moi, je ne l'ai pas vu. Once Upon a Time in Hollywood.
Oui, j'avais déjà oublié ce film, tu vois.
Bah voilà. Donc, pour moi, clairement, c'est un film que j'attends avec impatience. Tu l'as vu, visiblement, ça t'avait marqué au point de te dire waouh. Mais voilà, moi, c'est
que. Non, mais j'irai le revoir avec grand plaisir.
Tarantino avec DiCaprio.
Le montage va changer en plus. Donc,
Ouais. Sensiblement
enfin, il y aura un montage. Pardon, non, je rigole.
Oh, ça va. On termine la saison sur des coups de poing.
Alors, ça tire à balles réelles ici, attention.
Il y a New Mutants qui sort le 2 août. Alors, what the fuck, ça fait 5 ans qu'il doit sortir celui-là.
Et Spider-Man quand même. Je suis un peu curieux. Playmobil, je ne l'ai pas encore vu, je le vois bientôt, mais apparemment, c'est très mauvais.
Il y a la énième série de bouquins fantastiques pour enfants adaptés sur grand écran.
Artemis Fowl
par Kenneth Branagh. Donc, en général, Kenneth, c'est un bon yes man qui fait les choses bien, propre.
Ouais.
Peut-être que ça va être une bonne surprise, on ne sait pas.
Il y a le petit film de Luc Besson, Anna. On va voir ce que ça va donner. Mais...
Angry Birds Movie 2, c'est quand même la grosse nouvelle.
Un petit Roi Lion.
Oui.
Hein,
histoire que Disney se fasse quand même un petit milliard ou deux hein, au passage. Mais voilà, c'est un peu ça les films de l'été. On a vu plus, on a vu mieux par le passé, clairement. Mais voilà, sans compter forcément que la semaine prochaine, on a Toy Story 4 et Spider-Man Far From Home qui sortira tout début juillet. Ouais. Donc voilà, du très lourd. Toi, c'est Angel Has Fallen. Moi, c'est plutôt Once Upon a Time. Ça vous dit vraiment beaucoup de choses
non,
sur nous.
Alors... Oui, c'est vrai que. Ouais, mais. Once Upon a Time in Hollywood, c'est un bon film. Moi, j'étais un peu déçu. C'est vrai que j'ai pas vraiment beaucoup parlé du film. Je vais essayer d'être assez bref ici, mais effectivement, tu vois que le film n'était pas complètement terminé. Il y avait des problèmes d'ellipse, je trouve, dans le montage qu'on a vu à Cannes. Et je m'attendais absolument pas à ça comme film.
Et alors, Quentin,
parce que Tarantino s'amuse avec plein de choses, dont des choses dont je peux pas parler, parce que sinon c'est un peu problématique, mais voilà, on va dire qu'il refait un exercice qu'il avait fait auparavant avec un de ses films précédents. Certains avaient déjà, c'était déjà un surjet qu'il ait osé faire ça. Moi, ça ne m'avait pas déplu, et du coup, je m'attendais pas. Enfin, si, je pensais qu'il pouvait refaire la même chose ici. Et...
Je crois qu'on a perdu tous les auditeurs voilà. Là. Alors une fois, il a voulu faire un truc dans un film qui n'a pas plu aux gens. Tu parles peut-être de Inglourious Basterds, peut-être. Hein,
je ne sais pas.
Une scène qui implique une Kalachnikov, ou je sais pas quoi. Voilà.
Bref.
Je ne suis pas au courant. Non, mais je n'ai pas vu.
La vérité, c'est que si j'étais un peu déçu après la vision à Cannes, j'ai quand même très hâte de le revoir parce que ça reste un très bon film. Ça reste une ode au cinéma hollywoodien et Tarantino, il sait faire tout ça très bien.
Donc voilà, un petit bonbon. C'est plutôt un petit bonbon en fait, hein. un petit harlequin là, tu vois, pendant l'été.
Oui.
Un petit Tarantino, ça fait plaisir. Oui. Mais c'est pas, ça casse pas trop à ta gueule, comme dirait l'autre.
Non, je dirais pas ça.
Ça, tu dirais pas jusque-là.
Non.
Est-ce qu'on parle un petit peu, pour terminer, là on a parlé de films un peu bourrins, Men in Black, Le Dain, bon Le Dain c'est pas bourrin, mais Child's Play, on termine sur... on termine la saison avec ça quand même, c'est ouf. Red Dawn.
Red Dawn.
Red Dawn.
Alors, de quoi ça parle?
Avec Judi Dench.
Autant, tu sais, on va dire les sorties de la semaine, et je vais parler de Red Dawn et Untouchable. Il y a Carmine Lola, que je n'ai pas vu, mais il était à la quinzaine des réalisateurs l'an dernier, je pense. Voilà.
Il y a un an, quoi, comme
toujours. Oui, oui. Child's Play, combien?
2.
Bien, 2 étoiles. La version restaurée de Maurice, que je n'ai pas vue, avec Hugh Grant, on s'en fout un peu.
Mais tu sais que j'ai même pas vu ce film, c'est quoi ce film?
Bah, moi non plus. Voilà.
Ah, ok, version restaurée d'un film qu'on n'a pas vu, ouais. c'est rare.
Il y a Men in Black International, 1 étoile.
1 étoile, oui.
Le Dain, 3. Et ce sera le film de la semaine.
Bah voilà.
Queen of Hearts, que je n'ai pas vu. M, alors que je n'ai pas vu, mais j'en ai entendu le plus grand bien, c'est le film qui avait remporté le Bayard d'Or au Festival de Namur.
Et non, ce n'est pas un documentaire sur le chanteur.
Non, c'est un... Non, je veux dire, c'est pas aussi réjouissant que ça. Je ne sais pas si M est très réjouissant, mais soit. Ça parle de pédophilie en Israël, dans la communauté juive, orthodoxe, quelque chose en plus.
D'accord.
Comment on dit ça? La commune. Ah, les noms, c'est les ultra-orthodoxes, pardon. Rigole pas avec ça. Et il est question d'un homme qui s'est fait. Enfin, Menahem, qui s'est fait violer. Enfant, forcément. Et qui revient des années plus tard dans sa communauté pour pardonner à ses agresseurs. Voilà. Et je rappelle que c'est un documentaire. N'est pas un film de fiction.
C'est ça en fait, c'est ça qui est troublant. Oui. Ok, bon, ben voilà.
Mais apparemment, c'est très très bien. Je pense que c'est très difficile aussi quand même. Mais donc voilà.
Un autre documentaire qui sort cette semaine d'ailleurs, qu'on n'a pas mentionné dans cet épisode.
Untouchable, qui est donc un documentaire sur Harvey Weinstein, toute l'affaire Me Too, etc., qui en a suivi. On part des débuts de Weinstein, avant même qu'il devienne le producteur influent et au pouvoir si important qu'il était. Donc on démarre vraiment au début de sa société avec son frère, enfin même avant les vrais débuts de sa société, parce qu'il était dans le milieu de la musique plutôt, des agents, etc. Et on a des témoignages des... Une de leurs premières collaboratrices, en fait, qui a travaillé avec eux avant même qu'ils fondent Miramax, en fait. Il avait déjà...
La main longue.
Ils ont fait un voyage ensemble, Harvey et elle, à Londres, parce qu'ils n'étaient pas à Londres, à New York, ils ne vivaient pas à New York à ce moment-là. Et il n'avait pris qu'une chambre d'hôtel, pas deux, avec un seul lit.
Mais il est économe, hein. Enfin, moi, personnellement, quand je pars en vacances, je fais ça aussi.
Ouais, toi tu pars avec ta femme, c'est pas pareil.
Non, en effet, pour une relation professionnelle, c'est assez particulier de partir en vacances dans la même chambre, à part si t'es deux mecs encore, tu peux et encore même c'est déplacé parfois.
Et ça, ce n'est qu'une des nombreuses personnes qui témoignent dans le documentaire.
Oui, c'est ça.
Et encore, il y en a que quelques-unes qui témoignent, il y en a beaucoup plus qui ont porté plainte contre lui. Mais dans le documentaire, il y a notamment Paz de la Huerta ou Rosanna Arquette. Et d'autres actrices que parfois, pour certaines, on n'en a jamais entendu parler parce que Weinstein a torpillé leur carrière aussi. Donc, s'il n'obtenait pas ce qu'il voulait, voilà, le gars avait du pouvoir.
Est-ce qu'on n'est pas dans un documentaire... Allez, c'est différent, c'est pas la même chose, mais il y a eu Living Neverland, là, il n'y a pas longtemps.
Sur
Michael Jackson. N'a pas été jugé coupable, hein, donc forcément, c'est pas la même chose. Ici, on est tous d'accord pour dire qu'il a fait la chose.
Les choses.
Est-ce que tu n'as pas l'impression parfois que c'est un documentaire où tu te dis, tiens, il y a des gens qui sont venus s'attacher au projet pour faire du bruit pour un intérêt personnel aussi?
Non, je pense que ces femmes ont...
Je pense pas. Dans ce cas-ci, je pense pas.
Mais... Non, clairement pas. Pour celles qui sont peu connues, en tout cas, je pense que c'est... Alors, les faits sont pas derrière elles, mais... l'aspect cinéma, etc., de leur vie, l'est sans doute.
D'accord.
Donc, je pense absolument pas qu'il y ait une envie de... Enfin, quand tu... quand tu témoignes dans ce genre de documentaire, c'est rarement pour aller te faire de la pub, hein, quand même.
Non, mais tu sais, dans les procès, ça peut jouer. Hein.
Je sais pas. Je trouverais ça très très malsain. Et je
bah oui, mais c'est un peu ce qui s'est passé avec Niving de Novalan. Hein, c'était pas clair. C'est pas la même chose ici. Non. De nouveau, je le dis parce que lui, bon, voilà, c'est avéré. Mais en effet, parfois, les documentaires, surtout des gens que tu n'as pas vus, comme tu dis, il y a des gens qu'on n'était pas au courant qui arrivent. Tu dis, oui, c'est pas un peu un truc où tout le monde vient un peu sauter sur l'occasion. C'est un peu parfois l'impression qu'on pourrait avoir.
C'est délicat. C'est très délicat. Très délicat.
Parlons d'un film qui est moins délicat, alors, du coup.
Mais alors, pour quand même conclure là-dessus. C'est difficile d'aller conseiller un documentaire sur un type qui a harcelé.
Non, mais si vous êtes d'humeur, il faut être d'humeur.
Qui a violé des femmes, qui en a touché. Voilà. Après, ça reste un personnage qui a compté dans le cinéma, qui compte toujours d'une certaine façon, même si maintenant il est fini. Hein, mais je pense que c'est un des rares noms de producteurs que les gens connaissent. Enfin, les gens. Tout le monde ne connaît pas, mais. Donc c'est quelqu'un qui a pesé et les témoignages sont parfois très très difficiles quand tu vois ces femmes parler, raconter ce qu'elles ont vécu, limite seconde par seconde, c'est pas facile. Clairement. Mais voilà, je pense que c'est un film qui a le mérite d'exister et qui c'est important que ce soit fait.
Bah écoute, c'est intouchable ou untouchable pour le titre en anglais. Autre film qui, du coup, est un peu plus léger, je pense. Beaux-parents avec José Belasco, Didier Bourdon et Bruno Benabar. Didier Bourdon, on a abandonné un peu ces temps-ci pour être franc avec vous.
Pas vu et je ne dirai pas. Je ne dirai rien là-dessus.
Ma femme te conseille Les Vacances de Monsieur Perruchot.
Écoute, je pense que je ne vais pas retenir le conseil de ta femme.
Si vous avez vu ce film, dites-le.
Franchement, vu vos goûts cinématographiques, je pense pas que je vais, m'essayer à vos conseils. Je peux
comprendre. Et on termine du coup par Red Joan. Avec Dame Judi Dench qui n'arrête pas, elle est toujours là, c'est incroyable.
Ouais, oui.
Qui nous fait un film du coup crime drame, c'est un peu ça comme ça qu'il est décrit en tout cas. Tu as eu l'occasion de le voir.
Oui, c'est une espèce de thriller historique.
Oui.
En fait, elle va... Au moment où le film commence, elle est... on voit Judi Dench dans sa cuisine, dans sa maison, je sais pas. Et globalement, on vient l'arrêter. On parle d'une femme qui a 80 et quelques, voire plus. Hein. Donc, tu dis... Ah, ok. Et elle est arrêtée pour trahison, je sais plus quoi... Tu dis,
ça fait secret britannique.
Et en fait, elle incarne une fille qui, pendant la guerre, a livré des secrets aux Russes pendant la Seconde Guerre mondiale. Hein. Pas pendant la guerre froide, pendant la Seconde Guerre mondiale. Les secrets en question, en fait, étaient liés à la bombe atomique. Donc, ce sont ces secrets à elle qui ont permis aux Russes d'arriver à avoir la bombe atomique peut-être plus rapidement que prévu. Et donc, c'est considéré comme une trahison.
Disgrâce.
Elle fricotait avec des communistes, ça se fait pas. Et en gros, sa justification à elle...
Ça aurait pu être des nazis. Hein,
que personnellement, je comprends, c'est que ça a permis de créer un équilibre. S'il n'y avait que les Anglais et les Américains qui avaient la bombe atomique, qu'est-ce que ça aurait donné ?
Ils auraient eu plein pouvoir, c'est ça.
Et donc, en tout cas, c'est ce qu'elle dit. C'est qu'en créant cette espèce de balance, personne ne l'utilise, en fait. Parce qu'au départ, quand les Américains l'ont utilisé au Japon, ils étaient les seuls à l'avoir. Et on a vu ce que ça a donné.
Ouais.
Et par la suite, les Anglais, etc., et puis les Russes ont réussi à l'avoir aussi, et puis d'autres pays. Hein, mais du coup, ça crée une espèce d'équilibre. Les rapports de force sont plus ou moins égaux, et il y a un statu quo.
Tout à fait.
Un peu comme depuis que l'Union européenne a été créée, il n'y a plus de guerre en Europe. C'est un peu selon les mêmes principes, en fait.
On a beaucoup de Français qui nous écoutent. Il faut éviter de parler de l'Europe. Hein. C'est un sujet, sujet sensible, Thibaut.
Mais oui. Bah donc voilà, Red Jones, c'est... Donc Judi Dench ne fait pas grand-chose dans le film. Ce que le film montre vraiment, c'est le personnage, comment, pourquoi, etc. au moment de la au moment des faits en fait. Donc
ah c'est au moment des faits, c'est, oui. C'est pas il y a, y a en le fait, côté quand tu vois présent le poster, et passé.
Tu okay. vois sur le poster il y a deux femmes, il y a Judi Dench et en fait la fille à côté bah c'est le per... le même personnage mais à l'époque quoi. Voilà.
Genre 10.
Voilà. Donc Red Joan, Joan rouge comme les commis. Mais
c'est pas mal. Mais... la boucle est bouclée
exactement.
Qu'est-ce que tu donnes si tu dois lui donner une note à celui-là rapidement pour que nos éditeurs puissent faire une idée.
Une étoile, c'est le film pour les petits BBC les, 4. Petits, les petits vieux à 16h à l'UGC Toison d'Or, tu vois.
D'accord, ben voilà. Comme ça vous vous savez si c'est pour vous ou pas.
Bah après c'est pas inintéressant mais c'est vraiment pas passionnant quoi. Et l'histoire d'amour parce qu'il y a évidemment une histoire d'amour au milieu de tout ça.
Oui. De belles, belles contre-programmations cette semaine du coup au cinéma avec Men in Black International, Child's Play, Red Joan et Le Dain. C'était le dernier épisode de la saison 2 de Cinécast, saison 2, épisode 33. Je pensais pas qu'on allait faire 33 épisodes, donc c'est quand même pas mal qu'on en soit arrivé là.
Et encore, on aurait pu en faire plus.
Mais... ouais, mais avec tous les bonus en plus qu'il y a à côté, franchement, on a.
C'était une bonne saison.
Bonne quarantaine d'épisodes au total. Donc pas voilà, loin. On se dit à l'année prochaine pour. Enfin, l'année prochaine, l'année académique prochaine, pour une nouvelle saison de Cinécast. D'ici là, restez couverts, passez un bon été. Faites-vous plaisir, ouais. Allez voir de la musique, festival de musique, etc. Je sais pas où vous êtes. Allez au cinéma, bien sûr. Et allez peut-être vendredi nous voir au Kinographe pour la Cité de la Peur.
Ouais, ouais.
Spécial 25e anniversaire du film avec Alain Chabat qui ne sera pas là.
Non. Allez voir Angel Has Fallen aussi quand il sera sorti fin août.
Oui, avec une petite pensée pour Thibaut.
Comme ça, ils feront peut-être un 4e.
Et envoyez un tweet à Thibaut. Thibaut VDB sur Twitter. Et, ouais. Et voilà, dites-lui ce que vous en avez pensé. Et remerciez-le pour cette bonne suggestion au cinéma.
Le nanar en puissance que ça va être.
Et ça, c'est sûr.
Bon, en tout cas, vivement.
Venise.
Vivement Venise.
Vivement Venise. Bon, tu sais bien, manger une pizza, voir des films, discuter.
Ouais.
Condole. Moi, c'est mon truc.
Un petit podcast quotidien, on va essayer, comme on ouais, disait.
Tout à fait.
Avec de. En bonne compagnie. Hein.
Très bonne compagnie.
Ça va être bien.
Ça va être bien. Des habituels. Des gens moins habitués aussi au podcast qui seront là.
Mais oui, donc, tout ouais. à fait.
Sympathique.
Oui, Samuel qui nous a accompagnés, que vous avez pu écouter dans le podcast de Cannes, sera présent. Donc ça va être bien.
Très que ça. Ben oui. Ça va être super sympa. On se dit du coup rentrée.
C'était une bonne année, Guillaume. T'es content ?
Je suis très content.
Ça va alors.
On a aussi. Fait pas mal de choses. Quand tu fais le recap, tu dis putain, ouais. On a quand même pas mal de
t'as
choses.
T'as de la gueule.
Quand on est dedans chaque semaine, on se rend pas compte. Mais quand on prend la vue d'hélicoptère, on se dit tiens, on a quand même fait beaucoup de trucs. On ouais. a été un peu à gauche à droite cette année, c'était pas mal. Puis on continue comme ça.
On a eu de sympathiques retours. Continuez à nous écouter.
Continuez à nous écouter, à nous envoyer des mails.
Big up à notre auditrice
maman
des États-Unis.
Oui, tout à fait. Mais tu sais qu'on a des gens au Qatar aussi maintenant. Ouais, donc voilà, c'est pour vous dire merci beaucoup en tout cas d'écouter Cinécast. C'est grâce à vous qu'on fait ça, non. Mais c'est grâce à vous qu'on le fait avec autant d'enthousiasme et on est content d'aller voir des films qui sont bons, qui sont moins bons. Surtout Thibaut, je dois quand même vous le dire.
Bon, j'en ai vu beaucoup.
Oui. En tout cas, on vous dit à l'année prochaine pour Cinécast. Peut-être qu'il y aura un épisode spécial entre temps, on ne sait pas, mais en tout cas, il y aura Venise, on sera là et on se dit arrivederci.
Arrivederci.
Arrivederci, tout à fait.